explorer trois parties. Dans un premier temps, je vais rappeler quelques éléments qui concernent les approches plurielles des langues et des cultures et leur cadre, qui est le CARAP, cadre de référence pour les approches plurielles des langues et des cultures. Alors, je sais qu'une partie d'entre vous, certainement, connaît ces éléments, hein, mais vous avez, comme beaucoup de publics, la grande difficulté pour moi d'être un public hétérogène. Je vais raconter des choses qui vont sembler des évidences pour certains d'entre vous et qui, les mêmes choses, paraîtront des nouveautés ou au moins des choses un peu difficiles à comprendre pour d'autres. Mais de toute façon, il faut que ces approches soient connues, hein, pour pouvoir continuer, pour que je puisse continuer à vous dire des choses aujourd'hui, parce que ça forme l'arrière-plan finalement de ce que je souhaite dire par ailleurs. Bon, l'objectif sera aussi de vous montrer que les approches plurielles ont un rôle central à jouer dans l'éducation plurilingue et interculturelle de tout apprenant. Mais ensuite, il faudra bien que j'essaie d'expliciter rapidement, hein, toujours, leur pertinence spécifique pour les apprenants allophones, parce que c'est ça qui vous intéresse directement ici. Donc, il y aura une centration sur ce public particulier, mais toujours en lien, ça fait partie des choses que je veux dire, avec leur carrière globale d'apprenant dans le pays d'accueil, carrière globale qu'ils partagent avec les autres apprenants de ce pays d'accueil. Je crois que c'est important de ne pas perdre ça de vue. Alors, c'est en référence à cette globalité que le titre de l'intervention parle aussi de curriculum, c'est ça que ça veut dire. Je voudrais insister sur le fait que les différents moments du recours aux approches plurielles dans le curriculum se soutiennent mutuellement et s'enchaînent les uns aux autres. Tout cela me permettra enfin, en référence à certaines pratiques, à mon avis, partielles de l'éveil aux langues, d'insister sur la place déterminante qu'il convient d'accorder au travail métalinguistique au sein de cette approche plurielle. Voilà un peu mon message d'aujourd'hui. Le temps imparti est limité et le temps passe, et je m'arrangerai pour vous donner un accès en ligne à un PowerPoint plus long, hein, où vous pourrez prendre votre temps pour compléter votre information là où je dois faire forcément maintenant des impasses. Je les signalerai et je le redirai en ligne avec ce PowerPoint. Donc, je commence par quelques éléments qui concernent les approches plurielles et le CARAP, cadre de référence pour les approches plurielles des langues et des cultures. En préalable, un principe qui est au centre des approches plurielles. Mettre en place une éducation plurilingue, c'est-à-dire développer le plurilinguisme dans l'éducation, ce n'est pas une affaire d'addition, ce n'est pas une affaire quantitative. Hein. Ce n'est pas simplement plurilinguisme, augmenter le nombre de langues que les élèves doivent apprendre. C'est une affaire d'intégration des enseignements de langue, hein, donc une question qualitative. Vous retrouverez ce principe dans le guide pour le développement et la mise en œuvre de curriculum pour une éducation plurilingue et interculturelle du Conseil de l'Europe, que je ne peux que recommander. Pardon, je suis allé un tout petit peu trop vite. Alors, pour justifier le choix d'un processus intégratif, on prendra la définition bien connue, je pense, ou plus ou moins, de la compétence plurilingue et pluriculturelle d'un individu qui a été fournie, ou plutôt diffusée, par le cadre européen de référence pour les langues, le fameux COCR. Ce cadre a été fait pour l'enseignement des langues étrangères, c'est vrai, mais la portée de cette définition est beaucoup plus large. Elle nous parle de la compétence plurilingue de chaque individu de façon globale pour tout son répertoire linguistique, toute langue et variété de langues comprises. Elle concerne donc la dimension linguistique à travers toute l'éducation. Alors, vous connaissez peut-être cette formulation qui est à la fois canonique, hein, de ce fait, mais qui est un petit peu alambiquée. Ce qui est affirmé, comme le montre ce que j'ai souligné, c'est bien que la compétence plurilingue d'un individu, ce n'est pas une addition, une collection de compétences séparées, hein, juxtaposées, pour chaque langue ou variété linguistique du répertoire. La compétence doit être considérée comme une compétence unique qui englobe l'ensemble des langues et variétés du répertoire. Je ne donne pas de référence à des travaux, il y en aura ailleurs, hein, où on va considérer cela comme un acquis. Dès lors, le lien avec la démarche intégrative s'impose. Si on veut qu'elle soit réellement plurilingue, l'éducation plurilingue doit prendre en compte la nature de la compétence plurilingue de tout locuteur et donc des apprenants. C'est-à-dire qu'elle doit être intégrative, intégrer les différentes interventions, comme on vient déjà de le dire, relatives aux langues, hein, puisque tout est cohérent dans la même compétence. Alors, je ne résiste jamais, hein, je dois le dire, à la tentation de concrétiser cette notion de compétence plurilingue globale par un exemple tout à fait personnel. C'était mon cas, hein, celui d'un francophone qui connaît l'allemand et qui voulait apprendre un peu de japonais, il y a quelques années, quand je suis débarqué au pays du soleil levant. Alors, on peut se demander pourquoi il est nécessaire de préciser qu'il y a une connaissance de l'allemand quelque part dans ma tête. Ce n'est pas des langues de la même famille, hein, mais attendons la fin. Comme il disait ces mots, etc., etc. Hein. Non, pour les francophones et pour bien d'autres apprenants, une des difficultés du japonais, c'est de mettre le verbe à la fin. Quoi ? Difficile ? Mettre le verbe à la fin ? Jamais de la vie. Hein. Moi, je n'ai jamais eu de problème avec ça. Pourquoi ? Eh ben ouais, watashi wa sensei desu. D'accord ? Ah, er weiß, dass ich Lehrer bin. Donc, vous savez, en allemand, le verbe à la fin. Et en français, évidemment, on n'en est pas là du tout. Hein. Le verbe n'est pas à la fin. Et en allemand aussi, au moins dans la subordonnée, c'est un peu plus complexe et plus profond même que ça, le verbe est à la fin. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ben, en apprenant l'allemand, j'ai introduit dans ma compétence plurilingue de petit français, francophone tout au moins, la capacité à construire une structure de phrase avec le verbe à la fin. Cette capacité m'a servi quand j'ai voulu construire des phrases en japonais. C'est chouette, hein ? Elle pourra me servir ultérieurement pour les dizaines de langues que j'ai encore envie d'apprendre. Hein ? Donc, ma compétence plurilingue est globale. Quand je parlais un peu, j'ai oublié, japonais, j'utilisais une capacité commune à ma compétence en japonais et à ma compétence en allemand. Alors, il convient maintenant de tirer les conséquences didactiques concrètes à la fois de la nature de la compétence plurilingue et pluriculturelle et du principe qui en découle, la démarche intégrative. Et c'est ici qu'interviennent les approches plurielles. C'est un petit peu rapide, hein, je reconnais. On en distingue traditionnellement quatre. On pourra en discuter longuement. Je vous les présenterai toutes rapidement dans quelques instants, mais d'abord je vous donne leur définition. Tout ça, ça se retrouve sur des sites, hein. Ne vous inquiétez pas, ne prenez pas trop de notes. Hein. Leur définition, c'est qu'on peut distinguer deux types d'approches didactiques. Des approches plurielles, des langues et des cultures. Je parle un peu moins des cultures, mais il y a pas mal de parallélisme. Hein. Excusez-moi, je ne peux pas tout dire en même temps. Qui réfèrent à des approches d'enseignement et d'apprentissage dans lesquelles on traite à la fois plusieurs variétés de langues et de cultures. Voilà, dans la classe, on fait en même temps plusieurs et pas rien qu'une. Hein. En revanche, si on ne fait qu'une, c'est ce qu'on appellera une approche singulière, plus traditionnelle, hein, dans laquelle on se concentre de façon isolée et quelquefois même en fermant les portes, hein, sur une seule langue et une seule culture particulière. Bien. Alors, une question un petit peu rhétorique, évidemment. Quelles approches permettent de mettre en place une éducation plurilingue dont vous avez vu qu'il faut des intégrations et des intégrations et des intégrations entre les langues ? Si vous fermez les portes entre les langues, vous ne pouvez pas. Donc, c'est bien évidemment et par définition des approches plurielles qui permettent cette intégration des enseignements de langue qui repose finalement sur la définition de la compétence plurilingue et interculturelle, hein, et pluriculturelle. Si j'ai fait comprendre ça, à moins que ce soit déjà compris avant, donc je n'ai aucun mérite, c'est déjà très très bien. Alors, on va se noter cette définition, hein. Voilà, qu'est-ce que c'est qu'une approche plurielle ? Une approche mettant en œuvre des activités didactiques, etc., etc. Et maintenant, je vais essayer de situer chacune de ces quatre approches là, que vous voyez par une brève définition et souvent un exemple d'activité. Mais je dois faire ça très très vite, hein, comme vous le savez. Alors, commençons par l'éveil aux langues. C'est une approche qui se pratique principalement aujourd'hui en maternelle et en primaire, mais aussi parfois au collège, hein, et même avec un public d'adultes. Je vous mettrai des pratiques décrites par Aude Bretonnier, dont vous connaissez peut-être le nom, hein, qui travaille avec éveil de langue, avec des adultes. Hein, je vous mettrai ça dans une bibliographie que vous trouverez aussi assez rapidement sur Internet. Alors, je vais me concentrer sur la maternelle, hein, et un peu sur le primaire. Voici un exemple pour la maternelle qui est tiré d'une publication de l'ancien Skeren, aujourd'hui Canopé. Hein? Voilà, c'est l'histoire d'un nounou sur le cochon qui ne veut pas se laver. Hein? Enfin, il veut bien, à condition qu'on lui chante une belle comptine. Alors, je vous rassure tout de suite, il voudra bien. Hein? Et quand on lui aura proposé, mais on n'en est pas encore là, une comptine malgache que voici. Hein? Là, voilà. Bon, mais avant, on lui aura fait écouter en vain, le vilain, des comptines en anglais et en espagnol, c'était jamais assez beau pour lui. Et les voici, hein, vous les avez vus. Et puis, bien sûr, qu'est-ce qu'on va faire? On va demander aux parents des petits-enfants de la classe hein, qui ne connaissent pas des comptines dans leur langue. On va essayer. Alors, les parents viennent à l'école, ils apprennent les comptines de toutes les langues de la classe à tous les enfants, voilà, etc., etc. Hein? Bon, alors, l'éveil aux langues. Si on résume, on peut dire que, contrairement à ce qui a été cru longtemps, ce n'est pas l'enseignement d'une langue particulière. Et cru longtemps, ou même peut-être encore cru, je ne sais pas. Si vous, à la fin, dans la discussion, vous en avez envie, et si on en a le temps, on pourrait discuter des récentes recommandations pour la maternelle. Hein, j'ai de quoi en discuter, mais la seule chose qui manquera, c'est peut-être le temps. Hein. Bon, en tout cas, sujet intéressant. L'éveil aux langues, ce n'est pas l'enseignement d'une langue particulière, ce n'est pas faire de l'anglais aux petits, hein, mais ça peut le soutenir, bien sûr, ça peut le préparer, ça peut le compléter, ça peut tout. Mais autour d'eux. Hein. Voilà. C'est une démarche qui est caractérisée par des activités qui portent simultanément, c'est une approche plurielle, sur plusieurs langues de tout statut. Eh bien alors, y compris des langues, et ça c'est important, que l'école n'a pas l'intention d'enseigner, parce qu'elle ne peut pas tout enseigner, et parmi lesquelles on trouvera bien sûr, comme par hasard, les langues des élèves allophones, et voilà ces langues qui s'introduisent avec d'autres langues à l'intérieur de l'école. Hein. Voilà. Très clairement, on peut dire que l'éveil aux langues connaît aujourd'hui une expansion en France, en maternelle, mais aussi en élémentaire et au collège, en particulier dans des classes qui visent à l'intégration des élèves allophones. Pour en savoir plus, n'est-ce pas Claudine, nous avons lancé avec Catherine Mendonça-Dias, parce qu'on ne sait pas trop bien où on en est, hein, une enquête. J'en aurai les résultats dans quelques semaines, on n'en est pas encore là. Hein. Peut-être est-ce que vous avez vu passer individuellement des questionnaires? Oui. Sinon, et si vous avez envie de remplir ce genre de questionnaire pour aider à y voir clair, j'ai mis mon adresse email sur la diapo de fin. Et vous pourrez noter. Et puis, bon, je suis connu comme le loup blanc. Hein, et donc, on peut toujours s'adresser à moi. Alors, pour la didactique intégrée des langues, parce qu'on en est là maintenant, hein, pour expliquer un peu ce que c'est, on va commencer par dire ce que c'est, justement. Hein. Qu'on dise didactique intégrée des langues ou didactique des langues intégrées, peu importe, il s'agit d'aider l'apprenant à établir des liens entre un nombre limité de langues, celles qui sont étudiées dans le cursus scolaire. C'est donc un appui sur le connu, c'est bien connu ça, pour aborder le moins connu, la langue de scolarisation pour aborder la première langue étrangère, cette dernière et encore la langue de scolarisation pour entrer dans une seconde langue étrangère, etc., etc. Ces mises en synergie sont potentiellement profitables à toutes les langues, y compris celles sur lesquelles on s'appuie par une sorte d'effet en retour. Hein ? Il y a toujours un effet miroir en retour. C'est en Suisse alémanique qu'on trouve les développements les plus élaborés de didactique intégrée aujourd'hui. Pour vous, et parce que vous avez mérité, comme vous le voyez, le meilleur, je suis allé jusque dans ce pays, hein, et j'ai même détourné une publicité, uniquement pour pouvoir vous dire qu'il y a là-bas au moins deux projets qui sont intéressants. Hein. Un projet qui est un manuel de français qui s'appelle Millefeuille, et un projet plus original encore, Brücken. Brücken signifie en allemand les ponts. Hein. Donc il s'agit de livrets qui aident les enseignants à faire le lien entre des manuels déjà existants de anglais et de français et qui introduit aussi de l'allemand. Hein, voilà de la didactique intégrée entre les langues que l'on enseigne à l'école. Voilà comment ça fonctionne. Je donne un seul exemple qui est tiré de ces livrets. Il concerne des élèves de 7e année de scolarité à qui on fait faire un travail de systématisation sur les préfixes et suffixes. Hein. Vous voyez, unhappy, mécontent, unglücklich, etc. Donc ça porte à la fois sur le français et l'anglais, mais aussi sur l'allemand en langue de l'école, ne l'oublions pas. L'élève découvre que selon les cas, l'anglais proche du français ou de l'allemand, c'est un travail de renforcement et d'élargissement aussi au niveau du vocabulaire. C'est aussi dans la didactique intégrée, mais je n'en parlerai pas, que l'on peut placer les activités de médiation linguistique, hein, dont on parle pas mal en ce moment, d'alternance entre langues. Tout ça, c'est en fait des variables, pour moi, de didactique intégrée. La situation en France, en ce qui concerne la didactique intégrée, est très paradoxale. D'une part, et malgré l'importance des travaux qui ont été effectués longtemps sur les liens entre français et langue étrangère, hein, j'en ai fait il y a 25 et même plus, hein, 20, 30, 40, je ne sais plus. Et malgré les incitations qui sont faites dans les nouveaux programmes, aussi pour le lycée, hein, pour un travail entre les enseignants de français et les enseignants de langue étrangère, on ne voit pas, à moins que je n'ai pas de bons yeux, voir les choses réellement bouger. On ne bouge pas. Hein. D'autre part, paradoxal, parce que les seules réalisations systématiques, et cette fois entre langues étrangères qui existent, ça concerne les classes bilingues. Hein, vous savez, ces fameuses classes bilingues, et particulièrement entre le français et l'allemand, comme s'il n'y avait pas en France, depuis des décennies, des tas d'autres enfants qui apprennent de langues étrangères. Hein, c'est comme si ça n'existait pas. Bon, il y a plein de fous. Hein, de folie. Ici aussi, j'ai lancé une enquête, et on devrait en savoir... Non, les fous, bon. Et on devrait en savoir un petit peu plus dans quelques semaines pour voir ce qui bouge ou ce qui ne bouge pas. Maintenant, quelques mots sur l'intercompréhension entre les langues parentes. Elle propose un travail d'apprentissage et de réflexion comparée, portant sur deux ou plusieurs langues a priori d'une même famille, les langues romanes, les langues germaniques, les langues slaves, qu'il s'agisse de la famille à laquelle appartient la langue maternelle de l'apprenant ou la langue de l'école, ou de la famille d'une langue dont il a déjà effectué l'apprentissage, par exemple, faire du portugais après avoir fait de l'espagnol. Pourquoi pas, hein, en intercompréhension. Il s'agit en premier lieu de développer des compétences de compréhension écrite ou orale en mettant en place des stratégies qui, justement, sont fondées sur la parenté des langues. On sait tous que l'on comprend un peu l'espagnol ou l'italien, quand on connaît le français, même sans l'avoir appris. Regardez un petit peu la première phrase. Qué es el estrés? El estrés es la consecuencia. Je ne suis pas spécialiste de l'espagnol. Vous voyez cette première phrase? Vous êtes sûr d'avoir totalement besoin d'une traduction? Peu importe. Hein, vous avez vu comme c'est transparent. Hein. Mais bon, on est didacticien. Et comme didacticien, on va développer, entraîner ses capacités. Hein. Ça se développe par certains types d'activités. Par un travail d'observation, d'aide à la formulation d'hypothèses, etc. Il y a bien sûr des correspondances entre les mots, c'est ce qui frappe le plus, mais il y a aussi peut-être à mettre en parallèle les ressemblances et les différences grammaticales. On peut faire remplir des tableaux, vous voyez le genre de travail didactique cette fois, que l'on fait pour aider à l'intercompréhension. Alors, il nous reste à parler de l'approche, et je crois qu'il faut dire plutôt les approches interculturelles, car elles sont diverses et souvent concurrentes. Et là, je vais faire une petite impasse pour gagner du temps. Je pense que c'est un domaine très connu, on sait vaguement ce que c'est que l'interculturel. Je vais me contenter de vous donner la définition que nous en donnons, parce qu'elle montre le lien avec les approches plurielles. Pour nous, ça fait partie des approches plurielles. Donc, l'approche interculturelle, je suis au bon endroit, connaît de nombreuses variantes qui ont en commun de reposer sur des principes didactiques qui préconisent l'appui sur des phénomènes relevant d'une ère culturelle pour en comprendre d'autres relevant d'une autre ère culturelle. Moi, je fais aussi du latéral comme ça, mais ce n'est pas comme toi tout à l'heure. Et je n'ai pas de problème d'orientation. Bon, ces principes, donc vous voyez, c'est une approche plurielle. Ça s'appuie sur « du » pour aller vers « du ». Hein, mais cette fois-ci au niveau culturel. Ces principes prônent également la mise en œuvre de stratégies qui sont destinées à favoriser la réflexion sur les modalités du contact entre individus, hein, ça va un peu plus profondément, individus qui disposent d'arrière-plans culturels différents. Bon, on a donc très rapidement fait le tour de quatre approches plurielles, chacune ayant sa définition. Mais par-delà leurs différences, ce qui les unit, le fait même de travailler sur plusieurs variétés linguistiques ou variétés culturelles à la fois est bien plus important, est bien plus important que ce qui les différencie. Cela leur permet de développer certaines compétences chez les apprenants que d'autres approches ne peuvent pas ou peuvent moins bien développer. Alors, on va en voir un tout petit peu après, mais il faut aller vite. Face aux caractéristiques communes de ces quatre approches, on peut aussi dire, et pourquoi pas, il y a une seule approche plurielle avec des déclinaisons de cette approche plurielle unique en fonction d'objectifs particuliers, ceux de l'éveil aux langues, etc. etc. Peu importe, hein, on dit comme on veut. On a pris l'habitude de dire les approches plurielles, c'est peut-être un tort, mais bon, c'est un petit peu comme ça maintenant. Ce n'est pas très important. C'est aussi l'importance des caractéristiques communes à ces approches qui nous a conduit à créer un référentiel de compétences commun aux quatre. Hein, c'est le fameux CARAP. Il constitue une référence importante pour la mise en place de ces approches, que ce soit pour l'élaboration de programmes d'enseignement, pour la fabrication de matériaux didactiques, il faut bien avoir l'idée de qu'est-ce qu'on vise, hein, ou pour l'enseignant lui-même, pour qu'il comprenne le pourquoi de son travail, c'est un peu ce que je viens d'essayer de faire rapidement, hein, pourquoi est-ce qu'on travaille avec de telles approches, et pour qu'il se fixe des objectifs propres à lui. Hein. C'est de ce référentiel que je vais parler. Je le ferai à partir du site hein, que vous trouvez très facilement en ligne. C'est un site du Centre européen pour les langues vivantes de Graz, hein, Conseil de l'Europe. C'est le site du CARAP. Vous y retrouvez nos petits bonshommes, là, qui depuis tout à l'heure nous accompagnent sur mes diapos, hein, c'est eux. Vous voyez qu'au centre de la page d'accueil et donc au centre du projet, il y a des descripteurs de compétences. C'est le cœur du CARAP. On y indique quels sont les savoirs, les savoir-faire, les savoir-être que l'on peut développer avec des approches plurielles et qu'on ne peut pas ou qu'on peut plus difficilement développer avec des approches singulières qui ne travaillent pas sur plusieurs langues ou plusieurs univers culturels. C'est-à-dire quels objectifs on peut penser atteindre en utilisant cette approche, ces approches. Voici un échantillon de ces savoirs pour que vous ayez un petit peu une idée des savoir-être et des savoir-faire. Hein. Par exemple, connaître certaines caractéristiques de sa situation, de son environnement, j'en saute un ou deux, curiosité envers un environnement multilingue et multiculturel, estime de soi, maîtriser une démarche inductive appliquée à l'analyse des phénomènes linguistiques ou culturels, maîtriser des démarches de comparaison. Hein. Voilà tout ce que recense finalement le CARAP. Hein. Qui sont autant d'objectifs que l'on peut essayer d'avoir, que l'on a quand on essaye d'utiliser ces approches. Alors, dans le CARAP, on a mis ensemble, comme je l'ai dit, des descripteurs qui correspondent aux quatre approches plurielles que je vous ai montrées tout à l'heure, car bien souvent, des approches plurielles différentes développent finalement les mêmes savoirs, savoir-être ou savoir-faire. C'est à chacun de sélectionner les descripteurs qui correspondent à sa situation d'enseignement. On ne fait pas le travail pour les autres, nous. On peut s'appuyer pour cela sur le travail des descripteurs, le tableau des descripteurs au fil des apprentissages que nous avons essayé d'élaborer. Hein, ça contient tous les descripteurs, à nouveau, il y en a beaucoup. Hein, et on essaie de les situer par rapport aux différents niveaux d'enseignement. Hein, c'est un essai, hein, ce n'est pas scientifique du tout, c'est notre expérience. En plus des descripteurs, le site offre plusieurs rubriques intéressantes, des matériaux didactiques accessibles en ligne, qu'on peut choisir par niveau d'enseignement, par type d'approche plurielle, par langue des instructions pédagogiques, parce qu'il y en a dans plusieurs langues, et par descripteur. C'est-à-dire que l'on peut choisir un savoir-être ou un savoir-faire particulier parmi les descripteurs du référentiel lui-même, hein, et obtenir des matériaux qui cherchent à le développer. Actuellement, on a plus de 200 matériaux didactiques en ligne, gratuits, bien évidemment. Il y a aussi des outils de formation. C'est d'ailleurs pour vous éventuellement, puisque c'est aussi auto-formation. Si vous voulez creuser, vous allez là et vous trouverez des PowerPoint auto-gérables. Hein. Des exemples de recours au CARAP pour l'élaboration de curriculum, de matériaux didactiques, pour la formation des enseignants et aussi pour les travaux de recherche. Il y a beaucoup plus d'exemples que ce qu'on a pu recenser là, parce qu'on est un peu feignant, on n'a pas toujours le temps de le faire. Dans cette dernière rubrique, là, le recours au CARAP, vous trouverez une vue d'ensemble des pays et régions qui ont aujourd'hui en Europe introduit les approches plurielles ou dans leur curriculum, pardon, que ce soit sous ce nom ou sous le terme plus fréquent de didactique du plurilinguisme. Ça dépend des pays et des cultures. Il y en a une bonne douzaine quand même aujourd'hui. Et parmi eux, la moitié environ s'est inspirée visiblement et parfois même très explicitement des descripteurs du CARAP. Alors, vous en trouverez des exemples aussi dans le site. Bon, ce qui a été dit jusqu'alors des approches plurielles, ça vaut pour tous les apprenants, élèves allophones ou non allophones confondus. Comme annoncé, je vais maintenant me concentrer sur l'apport spécifique pour les élèves allophones. Je m'en tiendrai aux approches linguistiques, éveil aux langues, didactique intégrée, intercompréhension. Je laisserai de côté l'éducation interculturelle, pour lesquelles les choses sont, à mon avis, quand même plus évidentes. Pour résumer l'apport essentiel de l'éveil aux langues pour les élèves allophones, je vais retourner 30 ans en arrière. Rendez-vous compte, 30 ans que ça traîne. Il y aurait plein de choses à dire sur le temps qu'il faut à l'institution pour intégrer des nouvelles choses. Et 30 ans avec des propositions de Louise Zabène. Louise Zabène, elle disait, l'éveil aux langues a trois fonctions. L'accueil des langues des élèves, qu'il s'agisse d'une variété de la langue scolaire, elle y pensait déjà, ou d'une autre langue. La structuration du répertoire langagier, comme apprentissage qui articule le déjà-là, c'était déjà-là aussi, et l'appropriation de nouvelles connaissances à travers des démarches didactiques qui privilégient la comparaison et la diversité des perspectives. Bon, et c'était avant les approches plurielles, mais c'était déjà ça. La légitimation des langues parlées par les élèves, du simple fait de leur prise en compte dans les activités d'apprentissage conduites dans le cadre institutionnel que constitue l'école. On légitime les compétences des élèves en les prenant en compte dans la classe qui est l'institution même. Si la deuxième fonction, la structuration du répertoire langagier, vaut de la même façon pour tous les élèves, la première et la troisième ont une importance particulière, vous le savez très bien, pour les apprenants allophones. Voilà pour l'éveil aux langues. Pour maintenant la didactique intégrée. Si on reprend la définition qui a été donnée tout à l'heure de la didactique intégrée, on sait qu'elle se pratique entre des langues qui sont enseignées à l'école. Et si on considère par ailleurs que les langues des élèves allophones, on le sait, ne sont que très rarement des langues qu'on y apprend à l'école, on peut en déduire qu'a priori cette approche plurielle ne concerne pas les élèves allophones, ou tout au moins les concerne peu. Bon, mais pourtant, si on prend au sérieux la définition de la compétence plurilingue et interculturelle qui a été rappelée tout à l'heure, et le principe de l'appui sur l'ensemble du répertoire de l'apprenant pour l'apprentissage de toute nouvelle langue, on ne peut que souhaiter, évidemment, que des liens soient établis également avec les langues de ce répertoire, même si elles ne sont pas enseignées à l'école. Et ça existe, même si c'est encore très minoritaire. Je suis allé jusque en Allemagne, c'est pas trop loin, j'y vais souvent. Et là, c'est les matériaux pour des élèves dont la langue de l'école est l'allemand, qu'ils soient allophones ou non. Le but, vous l'avez peut-être vu, c'est l'apprentissage de l'espagnol. Comme vous pouvez peut-être le lire si c'est assez grand, on fait appel non seulement à l'anglais, mais aussi à l'allemand et à toute autre langue, c'est-à-dire si on veut. Et pour nous, les langues des élèves allophones. Si on s'en tient à ce que l'on vient de donner comme définition pour les approches plurielles, on va pouvoir dire que finalement, c'est de la didactique intégrée, plus, et pourquoi pas, tout se mélange si bien et si facilement, plus de l'éveil aux langues, dans la mesure où ces langues ne sont pas, des apprenants allophones ne sont pas forcément enseignées. Bon, mais là, on est par-delà toutes ces définitions. On est sur le principe même de mettre en lien les langues du répertoire et ce qui est en train de s'apprendre. Alors, qu'est-ce qu'il en est maintenant de l'intercompréhension? Allons jusqu'au bout. Stricto sensu, la didactique de l'intercompréhension ne devrait avoir d'intérêt pour un apprenant allophone que si une de ces langues, de cet apprenant, est une langue parente du français, pour pouvoir travailler en intercompréhension. Ce n'est pas aujourd'hui un cas très fréquent. Ce serait même plutôt le contraire. De plus, l'intercompréhension n'a pas en principe comme objectif de développer tous les types de compétences. Elle se limite à la compréhension. On peut toujours en rajouter, mais c'est ça le centre. Lorsque l'on fait de l'apprentissage du français par les allophones, on ne se limite pas à la compréhension, bien évidemment. Bon, alors donc, ça n'a a priori pas trop de choses à voir. Mais bon, si on va un petit peu plus loin, de façon générale, on imagine bien qu'un travail d'intercompréhension, par exemple, avec un ensemble didactique comme Euromania, hein, que je ne peux que recommander si vous ne le connaissez pas, là aussi vous aurez les références, hein, qui a été développé par Pierre Escudé pour l'élémentaire à propos des langues romanes, qu'un travail didactique de ce genre, sur l'intercompréhension, développe des compétences métalinguistiques dont l'apprenant a besoin pour l'apprentissage du français. Hein. Quand même, tout va ensemble. Alors, je passe à ma deuxième grande partie. Mais vous allez voir, ce sera nécessairement plus bref hein, quand je vois le temps qui passe. Je voudrais rappeler que pour tout apprenant, allophone ou non, l'éducation plurilingue forme un tout dont les éléments doivent être mis en synergie. Pour cela, il nous faut évidemment mieux concevoir ce que contient ce tout, hein, d'où une proposition de structuration du champ de l'éducation et de la formation concernée par l'éducation plurilingue. Je vais aller directement dans une minute à la structuration que j'obtiens, sans montrer le processus qui y conduit. Le processus, vous le retrouverez dans le PowerPoint plus long qui sera en ligne si vous avez envie d'aller voir. Alors, il y a trois critères qui m'amènent à cette structuration. C'est tout simple. Pour toute langue enseignée, on va se demander si c'est, premier critère, vous voyez, est-ce que c'est une des langues de l'apprenant ? Si oui, on retrouve en gros ce qu'on a appelé enseignement de la langue maternelle. Hein. Mais attention, hein, étant bien entendu que les deux catégories de gauche hein, peuvent recouvrir aussi bien un enseignement du français en France que du portugais, toujours en France, dans des cours organisés pour des enfants lusophones. Hein, voilà. Bon. S'il ne s'agit pas de la langue de l'apprenant, eh bien, l'une des langues de l'apprenant. On se demande alors s'il s'agit ou non d'une langue de l'environnement. Si oui, on se retrouve dans des cas qu'on appelle langue seconde. Et après, on se demande s'il s'agit d'une langue de l'environnement. Je ne me suis pas trompé. Non hein. Et dans ce cas-là, s'il ne s'agit pas d'une langue de l'environnement, on se retrouve dans le cas traditionnellement appelé langue étrangère. Bon, tout ça peut vous apparaître un petit peu à la serpe, c'est à la serpe, hein, mais dans le PowerPoint que vous trouverez en ligne, vous verrez que les critères sont formulés de façon beaucoup plus soigneuse que je ne le fais ici. Parce que ce que je voulais vous montrer ici, c'est que cette structuration, elle mérite de faire apparaître explicitement les trois occurrences, hein, il y en a trois, de ce que l'on appelle finalement langue enseignée comme vecteur d'autres matières. La langue des matières, langue enseignée comme vecteur d'autres matières. La première, je commence par la droite, ce n'est pas mon habitude, mais c'est comme ça, est généralement identifiée comme ce qu'on appelle Émile ou Klune, hein, pour les spécialistes de langue étrangère. C'est-à-dire, dans l'enseignement d'une langue étrangère, du bilingue, hein, comme on dit quelquefois aussi. Les deux autres sont des secteurs qui sont aujourd'hui en émergence encore, hein, ça commence, mais en émergence, qui sont identifiés souvent comme ceux de la langue dans les matières scolaires. Et dont traite un document récent du Conseil de l'Europe, hein, auquel je peux vous renvoyer aussi, les dimensions linguistiques de toutes les matières scolaires. Tout ça, ça forme un tout, c'est ce que je voulais montrer. Hein. Et ça veut dire quelque chose que ça forme un tout. Je vais me concentrer sur, justement, les derniers là qu'on a vus. Hein. Voilà, j'enlève le reste. L'occurrence qui est à présent à droite de langue dans les matières scolaires concerne le français, langue de scolarisation, pour les apprenants allophones, vous connaissez, hein, on est dans ce domaine-là. Pour eux, apprendre une langue, la langue dite parfois académique, pardon, celle qu'utilise l'école comme vecteur d'apprentissage des matières, c'est un objectif qui s'impose, hein, qui va de soi. Hein, on est là pour ça, pour apprendre à travailler à l'école avec la langue de l'école. Ce qui est plus intéressant, c'est que la réflexion qui a été conduite pour les élèves allophones a eu un effet de loupe en retour, peut-être, je ne sais pas, ou tout au moins de loupe, qui a permis de rendre plus apparent le fait qu'il s'agit là d'un problème qui se pose pour tous les apprenants, qu'ils soient réputés francophones ou allophones, réputés francophones. Et là, c'est l'occurrence de gauche, plutôt. Et là aussi, les approches plurielles, c'est ce que je voudrais montrer maintenant, ont leur rôle à jouer. Et ça, au moins pour deux raisons. pour ces langues dans les matières scolaires. Deux raisons. D'une part, parce que la maîtrise des variétés qu'on appelle académiques souvent de la langue de l'école, ça n'est rien d'autre que la maîtrise de ce qu'on appelle le plurilinguisme interne à une langue. Plurilinguisme interne, plurilinguisme externe, c'est le plurilinguisme des langues. Le plurilinguisme interne, c'est le plurilinguisme à l'intérieur de ce que l'on appelle une seule langue. Par exemple, les différents registres à l'école, ça fait partie du plurilinguisme interne. Mais finalement, c'est toujours du plurilinguisme. Ce plurilinguisme, c'est ce que je vais dire maintenant, interne, constitue avec le plurilinguisme externe, celui de la variété, excusez-moi, je suis en retard, celui de la variété des langues, l'ensemble du plurilinguisme que vise l'école pour un individu. Les deux défis, construction, ça va ? Oui. Tu me laisses encore 5 minutes, c'est bon ?
Oui, oui.
Dix, donc. Ces deux défis, construction du plurilinguisme externe et interne, appellent le même type d'outil. C'est à chaque fois du plurilinguisme. C'est à chaque fois de la mise en rapport entre des façons différentes de dire. Et donc, ça appelle, dans les deux cas, des approches plurielles. Une autre raison, encore, c'est un petit peu abstrait, mais c'est vrai. D'autre part, parce que l'ensemble du travail sur la diversité, que l'on va faire au sein des langues ou entre les langues, ça développe des capacités métalinguistiques, c'est ça aussi l'objectif, des capacités métalinguistiques globales, générales, qui vont ensuite soutenir le travail spécifique, n'importe quel travail spécifique, donc également sur les langues dans les matières scolaires. Tout cela se tient. Bon, ce qu'il faut avouer, c'est que les tenants des approches plurielles, et j'en suis un, semble-t-il, se sont jusqu'alors occupés essentiellement du développement du plurilinguisme externe. Donc maintenant, il faut qu'on regarde un petit peu de l'autre côté, parce que sinon, on ne va pas être en cohérence avec ce que je suis en train d'essayer de vous dire, c'est-à-dire que tout cela se tient. Le CARAP, par exemple, c'est scandaleux. Dans le CARAP, il y a actuellement très peu de descripteurs qui concernent spécifiquement le plurilinguisme interne. Bande de feignants, les auteurs du CARAP. Alors, on en trouve, oui, par exemple, être sensible aux variantes locales, régionales, sociales et d'une même langue. Il y en a quelques-uns. Mais ce qu'on peut dire quand même, c'est que d'autres descripteurs de ce CARAP s'appliquent aussi bien à la variété entre les langues qu'à la variété interne à une langue. Par exemple, si je dis savoir observer ou analyser des structures syntaxiques ou morphologiques, ça vaut aussi bien pour les différences entre les différents registres à l'intérieur d'une langue que pour les différences entre langues. C'est les mêmes capacités, finalement, qui sont là derrière. Bon, et puis, on pourra en rajouter, et on va le faire. On va le faire, c'est prévu. Par exemple, on pourrait avoir dans le style même du CARAP quelque chose comme connaître les caractéristiques syntaxiques les plus courantes qui peuvent distinguer les registres et les genres utilisés à l'école. Voilà. Et là, on voit bien qu'on retrouve, on construit cette unité. D'ailleurs, on voit apparaître peu à peu des matériaux didactiques qui visent au développement de la langue académique et qui impliquent les langues des élèves allophones. C'est encore rare. Là, je suis allé faire un petit tour en Autriche. J'aime bien être en Autriche. Il s'agit d'un travail en chimie, en 8e classe, notre classe de 4e. On cherche à faire le lien entre la description d'une expérience de chimie en langage académique, c'est assez courant dans ce genre de travail, et sa description en langage de tous les jours. Alors, on fait du lien. C'est en ça que ça ressemble aussi aux approches plurielles, évidemment. Et le langage de tous les jours, il est dit très explicitement que c'est soit une variété de l'allemand, et Dieu sait s'il y en a en Autriche, soit une langue autre, la langue de la famille, c'est-à-dire qu'on intègre dans ce travail également les langues de la famille. Bon, on arrive à la troisième, et elle sera courte partie qui avait été annoncée, qui concerne la place réservée à la réflexion métalinguistique dans les activités d'éveil aux langues. Je reviens sur l'éveil aux langues. Dans les activités d'éveil aux langues, il y a bien sûr, et c'est tout à fait bien comme ça, des activités qui portent sur des aspects linguistiques et d'autres qui portent sur des aspects culturels. Joie, les deux sont là. Mais la première question qui se pose, c'est la part relative qu'on attribue à chacune de ces dimensions. Si je regarde les matériaux existants, par exemple, les langues du monde au quotidien qu'on vient de voir tout à l'heure, il y a un équilibre. Je suis plus sceptique pour ce qui se passe dans les classes et ce qui se passe en particulier quand les enseignants n'utilisent pas des matériaux existants. Je fais une parenthèse, c'est assez scandaleux que les langues du monde au quotidien se soient justement épuisées en ce moment, au moment même, moi, je suis fou, ça me rend fou, au moment même où on est en train de, d'avoir les programmes qui permettent de le faire. J'ai essayé de faire des interventions, je ne sais pas. Bon, alors, je ne comprends pas, il y a des choses, on est un peu chez Ubu. Hein. Alors, il me semble quand même hein, que, faute peut-être de matériaux, hein, et puis parce que ça semble peut-être plus facile à faire, et que ça rentre dans une certaine tradition qui existe déjà de l'interculturel, bien souvent, dans l'éveil aux langues, on a quand même tendance à mettre plus des aspects culturels que des aspects linguistiques. Hein. C'est, à mon avis, quelque chose qu'il faudrait re-réfléchir, et quelques éléments pour se re-réfléchir. En tout cas, dans l'enquête en cours, peut-être qu'on en saura un petit peu plus, hein, Claudine. Hein. Bon, mais même avec cette enquête, et j'ai quasiment terminé, il sera quand même plus difficile de savoir ce qu'on fait réellement quand on travaille avec ces langues, parce que c'est pas fini. Qu'est-ce qu'on fait quand on travaille avec les langues et pas avec les cultures, hein. Là aussi, on peut avoir certaines craintes ou certains doutes. J'ai trouvé une façon de l'exprimer en lisant assez récemment une distinction qui est faite par Barbara Cassin dans « Éloge de la traduction », hein, très bon livre, à propos de la traduction en français du terme allemand « Verschiedenheit ». Elle dit qu'elle préfère diversité à pluralité parce que, dit-elle, c'est la différence et pas le nombre qui importe. Alors moi, je me suis gravé ça dans ma tête parce que ça faisait tilt avec ce que je ressens par ailleurs. Ma crainte, et à nouveau mon sentiment, c'est que beaucoup de pratiques actuelles de l'éveil aux langues se contentent de faire apparaître la pluralité des langues, en y incluant, ce qui est très bien, celle de la classe, de l'environnement, c'est très bien tout ça. Hein. Mais peut-être déjà là, hein, ça s'accompagne d'activités, oui, c'est des activités, qui demandent à l'enfant de reconnaître de quelle langue il s'agit. Bien souvent, vous le savez, l'enfant n'a pas les compétences, les connaissances préalables nécessaires pour que ce soit véritablement une activité cognitive. Hein. On joue un petit peu à la devinette et on est content. Bon, je noircis peut-être un peu le tableau, hein, mais vous allez voir où je veux en venir. Hein. Véritable activité cognitive. On ne fait pas, ou on fait trop peu, le véritable travail sur la diversité, c'est-à-dire sur les différences et les ressemblances. C'est ça la diversité. On ne fait pas, ou trop peu, observer, comparer réellement ces langues. Et je rappelle que ça peut se faire tout à fait sur de la matière purement orale, hein, sur les sons. Hein. Bon, et donc aussi avec les non-lecteurs. Hein. Voilà. C'est quand même ce développement de la compétence métalinguistique qui est là en train de se mettre en place. Si on se réfère à nouveau aux trois fonctions de Daben, on peut dire que le travail sur la pluralité permet de développer les fonctions d'accueil et de légitimation. Ok, c'est très bien. Mais il ne permet pas de développer la fonction de structuration du répertoire langagier qu'elle suppose un travail métalinguistique. Et comme finalement, il y a bien un fil rouge dans mon exposé, on l'a peut-être cherché, c'est bien par le travail sur la diversité, ce en quoi les langues sont diverses, que l'on peut procurer au jeune enfant des compétences métalinguistiques qui lui serviront ensuite dans tous ses apprentissages qui vont venir. Hein. Que ce soit pour le développement de son plurilinguisme externe, l'apprentissage des langues, hein, ou pour le développement de son plurilinguisme interne, par exemple, la maîtrise des registres académiques qui sont nécessaires aux apprentissages dans toutes les matières. Tout cela se tient. Et ça se tient même avec ce que l'on a vu ici, puisque ce que je viens de dire sur le développement, donc la comparaison, hein, sur les ressemblances et les différences, eh bien, ce que l'on a vu dans les exposés qui m'ont précédé, et, ben, c'est les exposés dont les contenus permettent justement de préparer ce travail sur la diversité. Hein. Et c'est en soi, je crois, c'est en ça, je crois, que l'on se retrouve. Voilà. Merci.